Cours de sciences de la vie et de la Terre. Terminale spécialité. Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. Grand A, génétique et évolution. Chapitre 2, la complexification des génomes, transferts horizontaux et endosymbiose. La méiose et la fécondation, que vous avez vu dans le chapitre précédent, permettent de brasser les gènes au sein d'une espèce, créant de la diversité entre les individus. Si ce brassage est un atout en termes d'adaptation de l'espèce, de nouvelles mutations transmissibles peuvent apparaître créant de nouvelles populations, voire même de nouvelles espèces, à condition que ces dernières confèrent un avantage et non l'inverse. Mais l'énorme diversité des êtres vivants ne peut s'expliquer uniquement par ces modifications. Il doit donc exister d'autres mécanismes permettant de complexifier les génomes des êtres vivants. C'est ce que nous allons voir à travers les transferts horizontaux et les endosymbioses qui ne sont qu'un aspect. Problème. Comment complexifier le génome d'une espèce permettant une meilleure adaptation à l'environnement à partir de nouveaux éléments génétiques? Alors tout d'abord, grand 1, les transferts horizontaux. Et grand A, universalité structurale et fonctionnelle de l'ADN. Donc il s'agit ici uniquement de rappeler quelques principes par rapport à ce que vous avez déjà étudié en seconde. En effet, la molécule d'ADN est le support de l'information génétique des cellules. Elle présente une organisation et un fonctionnement universel au sein du monde vivant. C'est d'ailleurs l'un des arguments qui permet d'envisager une origine commune de tous les êtres vivants. Ainsi, l'information génétique présente la même structure et le même codage de l'information chez tous les êtres vivants, que l'on soit une bactérie ou un éléphant. Ce qui va changer d'un individu à un autre, c'est une différence d'allèle. Ce qui va changer d'une espèce à une autre, c'est aussi la quantité des gènes et la quantité de gènes exprimés. C'est grâce à l'universalité de l'ADN que nous pouvons réaliser des transgénèses en biotechnologie. Alors, l'universalité de la structure de l'ADN signifie qu'on a une double hélice constituée d'une succession de 4 nucléotides, quel que soit l'être vivant que l'on considère. Et l'universalité fonctionnelle, c'est l'universalité du langage, c'est-à-dire que tous les êtres vivants utilisent exactement le même langage pour coder finalement leurs gènes. Grand B, la découverte de la transformation bactérienne. Alors Frédéric Griffiths fit une observation inattendue au cours d'expériences réalisées en 1928 sur des bactéries de pneumocoque ou Streptococcus pneumoniae. Cette bactérie est responsable de la pneumonie chez l'être humain, mais tue également les souris. Donc Griffiths découvrit une souche moins virulente, R, dite rugueuse, avec laquelle il réalisa des séries d'expériences, ainsi qu'avec la souche virulente dite S, lisse. Griffiths montra qu'il existe un principe transformant pouvant passer d'une population de bactéries virulentes à une autre non virulente, et qui à son tour devient virulente. Autrement dit, la souche R se transforme en souche S. C'est ce qu'on a appelé la transformation bactérienne. L'étape suivante consistait à identifier le support moléculaire responsable de cette transformation. Et cela fut résolu en 1944 par une autre équipe, Oswald Avery, et deux de ses collaborateurs, Colin MacLeod et MacLean McCarthy, qui ont repris les expériences de Griffiths et ont montré parmi différentes molécules que seul l'ADN était responsable de cette propriété transformante. L'autre enseignement est que les bactéries sont capables de s'échanger de l'ADN avec leur milieu. Donc attention, ces expériences font partie d'une argumentation. Il est absolument nécessaire de les connaître. Grand C, définition et mécanisme des transferts horizontaux. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un transfert vertical ? En fait, dans le cadre d'une reproduction sexuée, le brassage des gènes s'effectue et nous héritons de gènes de nos parents. C'est ce qu'on va appeler un transfert vertical, car il fait descendre des gènes de génération en génération. Mais alors, qu'appelle-t-on le transfert horizontal dans ce cas-là ? Le transfert horizontal, qui s'oppose au transfert vertical, est un processus qui permet à un organisme d'intégrer du matériel génétique provenant d'un autre organisme sans en être apparenté. C'est un mécanisme très fréquent entre différentes bactéries d'espèces différentes, mais cela existe aussi entre eucaryotes unicellulaires et entre les virus et tous les organismes vivants. Alors une fois qu'on a défini ces termes, voyons un tout petit peu les mécanismes de transfert horizontaux. Donc ces mécanismes de transfert horizontaux sont fréquents et multiples, notamment entre procaryotes. Les gènes assimilés par les organismes leur confèrent de nouveaux phénotypes. Cela influe alors sur leur population et leur adaptation à l'environnement. C'est ce qui permet de diversifier les espèces de procaryotes et permet d'avoir une meilleure adaptation à leur environnement sans la reproduction sexuée. Or, on peut distinguer chez différentes espèces de bactéries trois mécanismes principaux de transferts horizontaux. Alors tout d'abord, petit 1, la transformation. Comme je l'ai dit juste auparavant, c'est le mécanisme découvert par Griffiths en 1928. Il s'agit en fait d'un transfert passif d'ADN d'une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice. Elle est dite en état de compétence, c'est-à-dire qu'elle est apte à recevoir du matériel génétique. Le transfert est partiel, autrement dit, l'ADN assimilé n'est pas l'ADN complet de la bactérie qui est morte. L'ADN issu de la bactérie morte se fixe sur la paroi de la bactérie qui assimile cet ADN au niveau de sites récepteurs et dans des conditions strictes de l'environnement. C'est parce qu'elle possède ces récepteurs qu'on la dit compétente. Petit 2, la conjugaison. Alors la conjugaison est un mode de communication entre bactéries, ou plutôt un mode d'échange de matériel génétique mobile, de tout petits ADN mobiles circulaires qu'on appelle des plasmides. Il s'effectue alors un pont cytoplasmique entre deux bactéries, et qu'on va appeler un pilus. Et ce pont cytoplasmique va permettre tout simplement le passage de plasmides qui ont été répliqués d'un organisme à un autre, c'est-à-dire d'une bactérie à une autre, qui peut être une autre espèce. Ainsi, la copie du plasmide passe par le pont cytoplasmique d'une bactérie à l'autre. Il s'agit du principal facteur d'évolution des bactéries, en particulier pour l'acquisition de la résistance aux antibiotiques, ou on parle encore d'antibiorésistance. Alors, petite définition, qu'est-ce qu'un plasmide ? Un plasmide, en fait, c'est un tout petit fragment d'ADN circulaire présent dans la cellule bactérienne et indépendant du génome bactérien lui-même, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le chromosome bactérien. Et dans les bactéries, vous avez énormément de plasmides. Donc, ils servent très généralement à des mécanismes soit de défense, soit d'adaptation à l'environnement. Alors, pour approfondir un tout petit peu les plasmides présentent les caractéristiques suivantes. Leur ADN est toujours bicaténaire, circulaire, avec un nombre de nucléotides inférieur à 10 kilobases, c'est-à-dire 10 000 bases. Le nombre de plasmides dans une cellule bactérienne peut être considérable, plusieurs centaines. Les plasmides portent normalement des gènes qui leur confèrent un avantage sélectif, c'est-à-dire, par exemple, la résistance aux antibiotiques, comme on le disait auparavant. Mais ça peut être aussi des avantages adaptatifs liés au milieu. Leur réplication est indépendante de celle du génome bactérien. Autrement dit, on a un système qui s'auto-réplique et qui va le faire au fur et à mesure de l'évolution de la vie de la bactérie. Petit 3, la transduction. Alors, la transduction est un transfert d'ADN bactérien partiel en utilisant comme vecteur, cette fois-ci, un virus bactérien. Et ce virus est très particulier, il ressemble un peu à un module d'atterrissage lunaire. Et ce virus, on l'appelle bactériophage, de phagos, manger, bactérie, donc qui mange des bactéries. Et ce bactériophage n'est plus virulent in fine, c'est-à-dire qu'en fait, on a un virus bactérien qui assimile du matériel bactérien et qui n'assimile plus du tout du matériel viral. Et donc, il n'est plus virulent. Dans la première étape de contamination, en fait, il est actif. C'est-à-dire qu'on l'appelle virulent. Il vient infecter ainsi une bactérie en se fixant dessus, et cette bactérie, en fait, va être tuée par le virus. Donc, en fait, le virus amorce son cycle de reproduction en insérant son ADN dans l'ADN bactérien. Puis en associant ces protéines et son ADN, l'un d'entre eux incorpore par erreur l'ADN bactérien et non pas l'ADN viral. Ce dernier virus formé va perdre donc sa virulence, mais pourra tout de même aller l'injecter dans une autre bactérie. Ainsi, cet ADN bactérien, qui a été assimilé par le virus, est transféré à une autre bactérie. Pour peu que ce soit une bactérie d'une autre espèce, on a bien un transfert bactérien horizontal. Grand D, les transferts horizontaux chez les eucaryotes. Cette transmission de gènes à d'autres organismes hors descendance n'a que très peu été étudiée chez les eucaryotes. Décrit à la fin des années 2000, ce phénomène comporte des caractéristiques, c'est-à-dire entre parenthèses, processus, fréquence de transfert, etc., différentes des prokaryotes. Chez les eucaryotes, le transfert horizontal ou hybridation du patrimoine génétique entre deux espèces est plus limité, notamment dû aux mécanismes de reproduction sexuée. Le taux de transfert peut varier de manière importante entre lignées et même s'il est relativement faible sur l'ensemble des gènes, il a tout de même lieu. Le plus connu est celui lié au virus. Chez l'homme, l'étude de nos gènes montre que sur 197 gènes identifiés comme pouvant provenir de transferts horizontaux, leur origine n'est pas liée qu'au virus. L'un des exemples couramment cités est celui de la syncytine, protéine d'origine virale et à l'origine de la création du placenta chez les mammifères. Grand E, les transferts horizontaux en santé humaine. En médecine, les transferts horizontaux sont devenus un enjeu de santé. En effet, des bactéries pathogènes de plus en plus nombreuses acquièrent des propriétés de résistance aux antibiotiques. L'un des exemples les plus célèbres est celui du staphylocoque doré ou staphylococcus aureus, responsable de maladies nosocomiales. Lorsque la barrière cutanée est rompue, c'est-à-dire lors de blessures par exemple, une bactérie cutanée ou une autre peut alors se développer au niveau de la lésion et provoquer une infection dont le degré de gravité dépendra de la souche bactérienne elle-même, à l'origine de l'infection et ainsi que de la rapidité de traitement et l'état de santé général du patient. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est que certaines de ces bactéries ont acquis une résistance à de multiples antibiotiques, notamment en milieu hospitalier. Cette résistance est acquise principalement par le biais de plasmides, et donc surtout par le phénomène de conjugaison. Ainsi, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir dans le chapitre justement sur le site, le film de l'INSERM sur les grandes tueuses, l'antibiorésistance. Ainsi, notre connaissance des transferts de gènes nous permet aussi de mieux maîtriser la production de médicaments. On parle alors de gènes d'intérêt qui sont transférés dans des cultures bactériennes. On isole les bactéries ayant assimilé le gène d'intérêt, puis elles sont mises en culture. Ces mêmes bactéries produisent alors des molécules ayant un intérêt pharmaceutique pour l'être humain, comme par exemple la production d'insuline d'origine humaine. Grand 2, les endosymbioses. Alors essayons d'abord de définir proprement ce qu'est la symbiose. C'est une association durable de deux organismes tirant bénéfice l'un de l'autre, comme par exemple la flore bactérienne de la peau, ou encore la flore bactérienne de notre intestin. Mais alors, quelle différence fait-on entre symbiose et endosymbiose ? Si la symbiose est plus étroite et implique qu'un organisme plus grand intègre dans ses cellules ou ses organes d'autres organismes plus petits, alors on parle d'endosymbiose. Par exemple, le ver de Roscoff est une endosymbiose. Les endomycorhizes sont des endosymbioses. Grand A, endosymbiose et diversification du vivant. L'endosymbiose est donc une symbiose particulière entre deux organismes vivants où l'un est contenu par l'autre. L'organisme interne est appelé endosymbionte. Cette association est fréquente dans l'histoire évolutive des eucaryotes. Une fois les organismes fusionnés, la cellule hôte intègre même une part du génome de l'endosymbiote. Parfois, ce génome peut aussi régresser au cours des populations successives. Et parfois, l'endosymbionte finit même par devenir un organite à part entière de la cellule hôte. Il permet ainsi à l'organisme hôte d'acquérir de nouveaux métabolismes. L'exemple que vous avez traité en TP est celui du ver de Roscoff. En effet, le ver de Roscoff intègre dans ses cellules une petite algue, Tetracelmis convolutée, qui apporte au ver des sucres issus de la photosynthèse, du dioxygène, et qui lui permettent de mieux s'adapter à son environnement. Le ver, lui, Cyme sagittifera roscoffensis, apporte au symbionte quoi ? Protection contre le zooplancton, un milieu constant, des conditions optimales pour la photosynthèse, qu'il va rechercher d'ailleurs, et des nutriments azotés. Grand B, la théorie endosymbiotique de l'évolution. Dans les années 1960, Lynn Margulis proposa une explication endosymbiotique de l'origine de certains organites de la cellule, comme par exemple la mitochondrie ou même le chloroplaste. Si cette théorie fut d'abord froidement reçue par la communauté scientifique, elle est aujourd'hui admise et même étendue à d'autres organites. Ainsi, mitochondries et chloroplastes, ou plus largement les plastes même, et même d'autres organismes comme les lysosomes ou les flagelles seraient aussi d'anciens prokaryotes ayant été incorporés par des cellules plus volumineuses. Ces cellules apportent les nutriments nécessaires aux micro-organismes incorporés à ces derniers et ces derniers donnent d'autres capacités à la cellule hôte elle-même lui conférant une meilleure adaptation à son environnement. Ces grosses cellules anaérobies auraient donc acquis de nouveaux métabolismes tels que la respiration ou la photosynthèse grâce à des prokaryotes, qui seraient devenus dans le premier cas des mitochondries et dans le second des chloroplastes, les chloroplastes des plantes. En fait, même par la complexité des cellules, on arrive à savoir quel a été le premier endosymbionte finalement de la cellule eucaryote. En effet, si on revient à la jeune terre qui est habitée par différents types de bactéries, la plupart des organites à membrane, y compris le noyau, tels que le réticulum endoplasmique et le Golgi, peuvent provenir probablement de plis profonds dans la membrane plasmique. Mais tout d'un coup, on voit que on a des mitochondries qui pourraient venir s'installer effectivement dans une première cellule eucaryote. Puis secondairement, des algues qui viendraient prendre le rôle de chloroplastes et qui viendraient s'incorporer à ces cellules qui portent déjà des mitochondries. On voit donc que la cellule végétale est plus complexe que la cellule animale. Ainsi, les cellules eucaryotes animales, puis végétales, contiennent différents organites qui vont servir de compartiments cellulaires et vont s'ultra-spécialiser dans un rôle. Grand C, des arguments en faveur de la théorie endosymbiotique. L'origine endosymbiotique des mitochondries et des chloroplastes est appuyée par différents arguments. D'abord par la présence d'une double membrane limitant les organites. En effet, la membrane externe correspond plus à une membrane plasmique de cellules eucaryotes dans sa composition, tandis que la membrane la plus interne correspond plus à celle d'une bactérie. On est donc en présence d'un argument favorable à la théorie endosymbiotique. Deuxième argument, c'est les mitochondries et les chloroplastes possèdent en partie leur propre ADN. On dit que ce sont des organites semi-autonomes. Il existe aussi des outils moléculaires qui permettent la réplication de leur ADN. Donc, ils ont hérité cet ADN de leur propre chef. C'est encore un argument en faveur de la théorie endosymbiotique. D'autre part, troisième argument, il existe des ribosomes particuliers à ces organites, que l'on retrouve au niveau bactérien, mais pas du tout chez les eucaryotes. Et enfin, dernier argument, la division des organites intervient à un rythme complètement différent de celui du noyau. Donc, ils ne sont pas synchronisés dans la division cellulaire. Alors même si on observe un appauvrissement génétique de ces organites par rapport aux bactéries originelles, on pense qu'une partie du matériel génétique a été incorporée dans l'ADN de la cellule hôte, autrement dit, dans le noyau. Cela signifie qu'une partie du génome endosymbiotique a été transférée dans le noyau de la cellule hôte, ce qui est donc un transfert horizontal. Conclusion. Le génome de nombreux organismes comporte des gènes qui ont été hérités à l'occasion de transferts entre les différentes espèces. Ces transferts sont dits horizontaux car ils échappent à la logique de la reproduction sexuée et sont transférés d'une espèce à une autre. Pour cette raison, on les appelle aussi des transferts latéraux. Si les mécanismes chez les prokaryotes semblent au nombre de trois, comme par exemple la transformation, la conjugaison et la transduction, chez les eucaryotes, les transferts horizontaux sont plus difficiles à tracer. En médecine, les transferts horizontaux chez les prokaryotes pathogènes compliquent les soins apportés aux patients par l'acquisition d'antibiorésistances multiples. Et même si en pharmacie on utilise aussi certaines de ces propriétés pour produire des médicaments, comme par exemple les gènes d'intérêt. Les transferts horizontaux ne sont pas les seuls mécanismes de complexification du génome. L'endosymbiose est un autre mécanisme jouant un rôle important dans l'évolution. En effet, les mitochondries et les chloroplastes ont trouvé leur place grâce à ces mécanismes. L'ADN que contient ces organismes en témoigne. Donc attention, dans ce chapitre qui est court, les arguments sont à savoir, c'est-à-dire les expériences qui ont apporté la démonstration, et vos schémas sont à savoir refaire par cœur.